Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Nous reviendrons sur le retour des fortes chaleurs dans le Rhône, le département qui est placé également en vigilance jaune pour le risque d'incendie, risque de feux de forêt et de végétation. Le sénateur du Rhône, Gilbert-Luc Devinaz, vient d'annoncer son départ du PS. Et puis Malice Davis, qui aurait eu 100 ans cette année. Le festival Jazz à Vienne et Patrick Savel lui rendent hommage.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Météo France a de nouveau placé la métropole de Lyon et l'ensemble du département en vigilance jaune canicule. Après un léger répit, le thermomètre s'affole à nouveau. 34 degrés hier après-midi dans les rues de Lyon. Une chaleur lourde qui devrait persister et s'intensifier au fil des jours. Pour l'instant, le seuil de l'alerte orange n'est pas atteint, mais la préfecture appelle à la plus grande vigilance, en particulier pour les personnes fragiles et les aînés. Les bons réflexes restent les mêmes. Fermez les volets en journée, buvez régulièrement de l'eau et évitez les efforts physique aux heures les plus chaudes. Le département du Rhône qui est placé en vigilance jaune pour le risque d'incendie de forêt et de végétation. Une alerte qui fait suite à un week-end particulièrement agité sur le front des incendies. Depuis vendredi, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir sur au moins 5 feux de végétation à travers le département. Au total, ce sont 8 hectares qui sont partis en fumée en l'espace de 48 heures. Avec la chaleur et la sécheresse, les autorités appellent à la plus grande prudence. Le moindre geste d'imprudence, comme un mégot mal éteint ou un barbecue à proximité de zones sèche peut s'avérer dramatique. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Interdites depuis 30 ans pour des raisons sanitaires et de dignité humaine, les tentes vont de nouveau être autorisées pour loger les saisonniers durant les vendanges. En 1996, un arrêté ministériel interdisait formellement le camping dans les exploitations au nord de la Loire. Objectif à l'époque, mettre fin aux campements de fortune et garantir un logement décent aux vendangeurs. Mais 30 ans plus tard, la réalité de terrain a changé. Trouver des bras pour récolter le raisin est devenu un casse-tête et loger des dizaines de saisonniers pendant seulement 2 semaines coûte une fortune. En infrastructure solide. Face à la pression de la filière, les autorités lâchent du lest. Le retour des toiles de tente est acté. Mais attention, pas question de revoir des bidonvilles au milieu des vignes. Ce retour se fera sous haute surveillance. Les employeurs devront garantir un accès strict à des blocs sanitaires aux normes, de l'eau potable courante et des espaces de restauration collectifs en dur. Pas de quoi rassurer toutefois les syndicats agricoles et de salariés qui redoutent déjà des dérives et une précarisation accrue des travailleurs, souvent venus de l'étranger. Pour les viticulteurs, en revanche, c'est une bouffée d'oxygène pour sauver la récolte 2026, alors que le coup d'envoi des vendanges approche à grands pas. C'est le retour d'un fléau estival bien connu, l'ambroisie. La plante hautement allergisante est de nouveau sous haute surveillance en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec les températures actuelles, sa croissance s'accélère avant la redoutable période de floraison prévue à la fin de l'été. Rhinite, conjonctivite ou encore crise d'asthme, ces pollens sont parmi les plus agressifs pour notre système respiratoire. Pour limiter l'impact sur la santé publique, les autorités rappellent qu'il faut agir dès maintenant avant que la plante ne devienne incontrôlable. Si vous repérez des plants d'ambroisie dans votre jardin, le mot d'ordre est tout simple, arrachez-les, mais pensez à mettre des gants. Si c'est sur un espace public, vous pouvez la signaler directement sur la plateforme nationale Signalement Ambroisie. Sénateur depuis la nomination de Gérard Collomb au gouvernement en 2017, Gilbert-Luc Devinaz vient d'annoncer son départ du PS. Le conseiller métropolitain évoque une décision difficile, guidée par un manque de débat et de démocratie interne au parti. La liste plurielle de la gauche, hors LFI, sera vraisemblablement conduite par le sénateur écologiste Thomas Dessus et secondé par l'ancienne maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Avis aux automobilistes et aux usagers des transports en commun à Villeurbanne, le chantier du futur tramway T9 passe à la vitesse supérieure. Dès ce lundi matin, le pont du Roulet est totalement fermé à la circulation dans les deux sens. Une coupure totale prévue jusqu'au 24 juillet inclus.
Lyon demain, créateur d'envie.
Miles Davis aurait 100 ans cette année. Patrick Savet, qui fit les belles heures de TLM avec son émission Chaud devant dans les années 90, dirige aujourd'hui une société de production, Zikopolis, spécialisée dans les captations de spectacles vivants et la réalisation de documentaires. Le dernier en date s'intitule Miles. Il fait écho à 2 autres docus, Marcus et Herbie. Pour sa 45e édition, Jazz à Vienne rend hommage à Miles Davis, légende absolue du jazz et figure majeure de l'histoire du festival. D'ailleurs, en 1991, l'un des derniers concerts de Miles Davis avait pour cadre le théâtre antique. Et derrière les caméras, il y avait Patrick Savet et ses équipes. Qui était Miles Davis? En quoi a-t-il marqué le jazz? On est allé chercher des réponses auprès de Patrick Savet.
Je suis devenu fan de Miles Davis. Je ne l'étais pas forcément au départ. Je suis quand même au départ plus rock. J'étais beaucoup aussi avec Frank Zappa, parce que j'adorais Frank Zappa. Miles Davis est venu un peu plus tard, je devais avoir déjà 18-19 ans, et j'y suis venu par plutôt les albums de fin, et puis après j'ai remonté le courant comme les saumons pour arriver à la source.
Avec Zikopolis, là, vous éditez aujourd'hui un documentaire là, qui s'appelle Miles, tout simplement, après Marcus, après Herbie.
Alors, en tout cas, ceux qui connaissent le jazz, voilà. On peut pas dire, c'est Marcus, sans doute, Herbie, sans doute, et Miles. Alors, ce qui est l'avantage avec eux, c'est qu'ils ont des noms bien typés, ce qui fait qu'en jazz, on sait qui c'est. Après, les autres, peut-être qu'ils seront étonnés, peut-être qu'ils iront voir un petit peu qui est Miles, etc., ou Herbie, ou Marcus.
Pourquoi ces trois?
Alors, le premier, Marcus, donc je l'ai réalisé en 2015, d'abord parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, plus de 20 ans avec Marcus, et je me suis aperçu quand je le filmais qu'il avait une espèce de gestuelle sur scène qui ressemblait étrangement à celle de Miles. Il est toujours entouré de musiciens jeunes, et puis comme Miles, il tend le bras pour que les musiciens fassent leur solo. Donc voilà, ça c'est pour moi le plus Miles Davis sur scène. Herbie, parce que c'est le plus Miles Davis sur les albums, en définitive. On voit Herbie dans le quintet, puis on va le voir ensuite avec Ed Hunter, puis avec Rock It, etc. Donc il a aussi tellement changé de parcours, dans sa discographie, que pour moi c'est le plus Miles Davis en définitive, des compagnons de Miles en définitive. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué d'abord Marcus, parce que je le connaissais plutôt bien, Herbie parce que j'ai fait pas mal de choses avec lui, avant d'attaquer l'Everest. Et l'Everest, c'est Miles.
Alors Miles Davis, la carrière, elle s'étale de quoi?
S'étale de 40 ou ouais, 45 et jusqu'à 91, quoi, pratiquement. Avec évidemment des périodes, comme le dit Marcus, du bebop, en passant par plein de périodes. C'est un musicien qui était dans son temps et qui, bizarrement, parce que ça fait 35 ans qu'il a disparu, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui. Donc ça prouve que sa musique est encore là. Je répète, Kind of Blue, qui est un album déjà très ancien, c'est la plus grande vente de Miles et c'est le disque de jazz le plus vendu au monde. Donc c'est extraordinaire. Et puis de temps en temps, pour ceux qui aiment bien le ciné en France, on a ça sort chez pour l'échafaud. Pareil, je veux dire, c'est du Miles.
En fait, pour l'échafaud, en fait, il n'y a rien de composé à l'avance.
Il y a deux, trois grilles qui sont faites, mais globalement, il n'y a rien.
Il y a beaucoup d'impro.
Je crois que c'est à partir de là, effectivement, il va commencer à s'apercevoir qu'il faut qu'il compose, parce qu'avant, il ne composait pas. Donc, Ascenseur pour moi, pour l'échafaud, c'est en France, et c'est là où il s'aperçoit que l'improvisation va lui permettre d'aller plus loin. Et ensuite, il va y avoir Cadavour, en définitive, donc qui viendra un peu après, effectivement. Donc, c'est un peu cette période-là où, effectivement, Miles va vraiment trouver une première voie, en définitive, de composition, et puis s'entourer de nouveau avec plein de musiciens, quoi. Et puis, on va arriver jusqu'en 91, donc les derniers concerts, avec Prince, et on s'imagine que quand même les années 90, ça aurait pu être vraiment fabuleux. Enfin, entre Prince et Miles Davis, c'est quand même, ça a été forcément un choc.
Dans ce documentaire, il y a notamment des extraits de concerts, de ce concert de 91 ici à Vienne. Toi, ta coopération avec le jazz à Vienne, ça date de quand?
J'ai commencé en 1989, ouais, 89, et puis après, j'ai pas vraiment arrêté. Je suis resté 7 ou 8 ans, mais je faisais aussi des allers-retours. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 300 concerts de jazz de Vienne, quoi. De Dizzy Gillespie, Stan Getz, Miles, évidemment. Enfin, je vais pas tous les énumérer, mais il y en a facilement 300. Et donc, je les ai aujourd'hui entièrement numérisés, ce qui était important parce que c'est quand même des bandes. Hein. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Du bêta SP, il y a du bêta numérique, là ça va un peu mieux. Il fallait numériser et surtout aussi un peu refaire des choses, des talonnages. Donc j'ai refait un peu d'étalonnage, mais sans trop faire de perte, un peu de mixage aussi pour quand même conserver le maximum. Donc en fait aujourd'hui c'est un disque dur. Je souhaite une seule chose, c'est qu'on arrive enfin à pouvoir faire à Vienne un musée, pas qu'avec les images, là on est entouré de vinyles, de photos, de BD. Vienne c'est quand même la plus grande manifestation de Rhodalp, faut pas l'oublier. C'est un lieu mythique et je pense qu'effectivement Vienne mériterait d'avoir un musée. Il y a déjà des musées évidemment, mais plutôt sur gallo-romain, mais un musée du jazz, 45 ans, je pense que ça mérite. J'aimerais bien pouvoir le faire quand Jean-Paul est encore présent, parce que là, avec tous ceux qui ont créé ce festival, commence à partir, et c'est la mémoire aussi, c'est important. Moi, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'interviews avec Jean-Paul pour conserver à un moment donné, en espérant que peut-être ces bandes iront un jour, je sais pas, sur un banc, que les gens pourront le voir gratuitement. Enfin, pour moi, c'est, vraiment la transmission. Allons-y, que les gens puissent voir ce qui s'est passé à Vienne, quoi. 45 ans, c'est pas rien, hein.
Alors ici, ce qu'on voit, c'est une exposition, il y a des pochettes, notamment des disques de Miles Davis. Il a été très prolifique. Hein,
toutes les pochettes, énorme. 400. Là, il y a 400 pochettes. C'est du Miles Davis avec trois collectionneurs, dont évidemment Jean-Paul. Donc là, quand on déambule, on est halluciné par le nombre de pochettes. Vous imaginez,
c'est à chaque fois avec des musiciens différents.
Pas forcément, mais il y a souvent, oui, il change.
C'était un peu le Graal, finalement, quand on est musicien sur cette période, de jouer avec Miles Davis.
Non, c'est pas le Graal. Il choisissait, le film le montre. Il entendait un musicien jouer, il l'appelait le lundi et il dit, mercredi, on enregistre. Voilà. Ça se fait plus, hein. C'est terminé. Ça ne se fait plus. Kind of Blue, c'est un one shot. C'est qu'une seule prise. Hein. Et le matin, il savait pas ce qu'ils allaient jouer l'après-midi. Ça, c'est la réalité. Donc, faut être au niveau. Aujourd'hui, globalement, il y a que le jazz pour encore continuer à ce que les gens soient à ce niveau-là. C'est-à-dire, j'entends le matin, on l'appelle, et l'après-midi, ils n'ont pas de grille et ils jouent, quoi. Ça reste quand même une musique sauvage, quoi.
Il y a 30 musiciens dans ce documentaire qui s'expriment.
Il y a à peu près une trentaine de musiciens, ouais.
Qu'est-ce qu'ils disent globalement? C'est quoi le message à propos
Le message, alors c'était important parce que il y a beaucoup de documentaires, d'excellents documentaires sur Miles Davis. Il y a évidemment des livres, l'autobiographique, il y a un film, il y a de la BD comme on peut voir aujourd'hui. Il y a très peu de musiciens qui parlent de comment ils sont arrivés avec Miles Davis, comment ils composaient, quel était leur rapport entre Miles, etc. Et je trouvais que ceux qui doivent en parler, c'est ceux qui étaient à l'intérieur, à savoir les musiciens. Et puis comment ça a évolué entre effectivement Kind of Blue, c'est one shot, c'est-à-dire une prise le matin on ne sait pas et l'après-midi on enregistre, jusqu'à Bitches Brew où ils vont mettre 6 mois pour effectivement faire l'album, et puis sur Toutou où c'est Marcus Miller qui va le composer et qui va se retrouver avec des machines. Donc on voit bien l'évolution qui s'est passée pour quelqu'un, et c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire il a toujours été dans son temps. Il le dit Marcus sur Toutou, il y a des bécanes, il n'y a pas du tout de musicien, il a 61 ans, il va lui dire alors il est où le clavier, il est où là, non, il a pris le casque, il a dit on y va, il y avait des machines autour de lui, mais enfin c'est un truc de fou, quoi. C'est ça l'évolution, c'est un peu ça qui te fascine. Et puis évidemment la vie de Miles, c'est aussi fascinant. Miles et la France, c'est aussi quelque chose, avec Juliette Gréco, avec tout ce que ça peut faire. Donc voilà, et 35 ans plus tard, Miles est toujours là, je trouve. J'ai pas l'impression qu'il soit mort, quoi. C'est fou. Ou qu'on se dise qu'il est mort hier, quoi.
J'ai entendu une phrase, il disait, je ne joue pas les notes, mais les silences, c'est ça, c'est un peu ça l'idée.
Non, c'est-à-dire qu'effectivement, un de ses héros, c'est Ahmad Jamal, c'est un pianiste. Hein. Et c'est vrai qu'Ahmad Jamal, il ne joue pas forcément toutes les notes. Il y a des silences entre là. Et c'est vrai qu'on le voit dans Miles, d'ailleurs dans l'évolution, il y a des moments sur la trompette, il y a 3 ou 4 notes, simplement. Et les 3 ou 4 notes, on les met, même celui qui ne connaît pas Miles va se dire, mais c'est du Miles. Parce qu'on reconnaît tout suite le son de Miles, et c'est pas forcément une suite d'accords ou une suite rapide de jeu, quoi. C'est simplement 3 ou 4 notes et paf, c'est Miles, ça suffit.
Il y a aussi dans le documentaire son rapport avec la drogue.
Oui, c'est sa vie depuis le départ, il y a des tas de raisons, etc. Forcément, c'est aussi une des raisons pourquoi il n'a pas joué pendant 5 ans. Donc de toute façon, la drogue elle est présente, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Il s'en cache pas dans son autobiographie, et là on n'en a pas non plus caché du tout. Il s'est effectivement drogué. Oui, la drogue, elle est présente. Est-ce qu'elle a influencé? Oui, elle a forcément influencé à un moment donné. Il est avec Jimi Hendrix. Il est vraiment, à l'époque, c'est les années 70, quoi. Enfin, je veux dire, les années 70, c'était pas. C'était Woodstock. On imagine. Il a utilisé ça, mais ça a amené Bitches Brew, ça a amené plein de choses, en définitive. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Non, c'est mal, mais bon, voilà, c'est fait. Ça a aussi contribué à sa création.
Il y a un moment, il fait aussi la bande-annonce d'un documentaire d'un combat de boxe, c'est ça?
Alors, c'est Jack Johnson. Jack Johnson, c'est le premier noir champion du monde aux États-Unis, flamboyant, c'est-à-dire qu'il est entouré de femmes, il adore les bagnoles, il dépense, enfin bref, on est dans une période américaine où un noir, en plus il bat des blancs, hein, il est fou par terre, Jack Johnson. Et c'est vrai qu'il s'est vu en lui, forcément, il s'est vu en Jack Johnson, il fait de la boxe, hein, Miles, il a aussi des voitures, il a des Ferrari, vie, il a des tas de choses, il a plein de femmes, et c'est, comment dire, assimilé un peu à Jack Johnson, mais c'est pas le seul, il y a d'autres musiciens, par exemple, Mohamed Ali adorait aussi Jack Johnson pour ce côté flamboyant, etc. Et donc, c'est un documentaire sur ce boxeur, qui fait à peu près deux heures, et à partir de là, c'est lui qui a fait la bande son, en fait, de ce documentaire qui s'appelle Tribute to Jack Johnson. Ouais. C'est assez un calque de sa vie, en fait, Jack Johnson.
Est-ce qu'il y a un héritier aujourd'hui de Miles Davis?
Il y en avait un. C'était Roy Hargrove, qui était son héritier, enfin un héritier, pas au niveau musical, mais sur la notion de passeur. Roy Hargrove, oui, parce qu'il avait cette capacité réellement à être en quintette, en hip-hop, etc. Bon, malheureusement, j'ai eu l'occasion aussi de le côtoyer pendant des années. Même problème, qui finit par la même chose, quoi. Dommage, parce que... Et donc, pour l'instant, il y a des gens qui peuvent, des trompettistes qui peuvent éventuellement, peut-être, mais pas encore, ils ne sont pas encore frais. Vraiment, Roy Hargrove était pour moi le passeur, le dernier passeur. Il y en a eu avant avec Coltrane et tout ça, mais lui, c'est le dernier passeur qui vient juste après Miles Davis. Ouais.
Pour conclure avec ton métier, c'est un métier particulier de filmer ou de faire un docu sur le jazz plus que sur le rock ou sur d'autres styles musicaux.
Le rock, j'ai fait pas mal de doc aussi. Après le jazz, je sais pas, peut-être l'âge. Aujourd'hui, j'ai 70 ans, donc bon, peut-être qu'on arrive au jazz. C'est un peu comme les huîtres. À 14 ans, t'aimes pas les huîtres. Alors, j'aimais pas vraiment à 14 ans les jazz. Et puis, à 20 ans, 25 ans, tu commences à aimer les huîtres, sur mon fils. Et puis après, j'aimais AC/DC, Led Zeppelin, je les ai vus, etc. Et puis, en force d'évoluer, d'écouter, etc., aujourd'hui, j'en suis au jazz. Voilà, puis c'est ce que je trouve pour l'instant. Enfin, j'essaie de trouver des sons, des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, mais bon, c'est pas encore en termes musicaux, que ce soit dans le rock ou dans le hard rock, etc. Je trouve pas encore ma tasse de thé. Il y a des morceaux, des choses qui peuvent être intéressantes, mais pas encore assez. Puis j'en ai fait quand même du rock, à TLM, j'en ai fait pas mal. On me ressort toujours des cassettes, ça, c'est bon.
Chaud devant,
ouais.
Il y a encore des projets sous le chapeau?
Ouais, j'en ai un ou deux de projets. Bah, déjà, là, on s'en va d'ici trois jours, on part à Fort-de-France pour un festival de reggae. Ça me fait plaisir. J'en y va régulièrement pour filmer. Je trouve que la musique antillaise, globalement, est assez intéressante parce qu'elle est à la croisée à la fois de la variété du rock français, mais aussi du reggae jamaïcain, de tout ce qui peut arriver des États-Unis via la Floride, etc. Et il y a un tel mélange aujourd'hui que voilà. Donc on est sur... je suis un peu par là-bas, du côté des Antilles. Et puis, je suis producteur aussi de documentaires. Donc là, je suis bien parce qu'en définitive, c'est des gens qui font des documentaires que j'adore. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, donc je suis assez heureux.
Patrick Savet, l'expo Miles Davis, 100 ans d'influence, est visible jusqu'au 11 juillet à l'église Saint-Pierre de Vienne. Une traversée de son œuvre et de son époque, avec quelques 400 pochettes de vinyle, une BD signée Jacques Ferrandez, des images INA, des photos. Quant à Miles, le documentaire, il sera diffusé à la rentrée sur France 4. À l'Olympique lyonnais, Corentin Tolisso va signer jusqu'en 2029. Âgé de 31 ans, le milieu de terrain lyonnais devrait prolonger son contrat de 2 ans, une décision assortie d'une baisse de salaire afin d'aider son club formateur à réduire sa masse salariale tout en poursuivant son rêve de remporter un trophée avec les Gones. Le tararien de naissance devrait signer dans les prochains jours. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour la prochaine édition.